France Culture. France Culture, sans préjugés, Nathan Dever.
Alors que l'administration Trump ne cesse de multiplier les attaques contre l'Europe, comment expliquer l'attitude hostile que le nouveau président américain adopte vis-à-vis de notre continent ? Par-delà les enjeux économiques et sécuritaires, l'Europe fait-elle les frais d'une offensive idéologique visant à saper l'idée même qu'elle représente ? La question est ouverte, bien sûr, de savoir si le divorce est consommé entre les États-Unis et l'Union européenne. Mais cette interrogation revêt une portée particulière dans un contexte où l'Europe est également menacée et décrite comme une civilisation décadente du côté de la Russie. Faut-il sur ce point mettre en miroir la rhétorique de Donald Trump ou de J.D. Vance avec celle des idéologues qui entourent Vladimir Poutine ? Acculée entre Washington et Moscou, l'Europe se retrouve-t-elle au cœur d'un choc des visions du monde ? À moins que cette situation de crise ne recèle paradoxalement l'occasion d'un moment de vérité en nous permettant de nous interroger sur le modèle philosophico-politique dont l'Europe est porteuse. Entre Trump et Poutine, quelle place pour l'Europe ? J'aurai le plaisir d'en débattre sans préjugés, aux côtés des historiens Florian Louis et Sylvain Kahn, et de la journaliste Sylvie Kaufmann.
France Culture, sans préjugés, Nathan Dever.
Bonjour Florian Louis.
Bonjour.
Vous êtes historien des relations internationales, membre de la rédaction de la revue Le Grand Continent, et votre dernier livre, 1904, Jeunesse du XXe siècle, est paru au PUF. Bonjour Sylvain Kahn.
Bonjour.
Vous êtes professeur au Centre d'Histoire de Sciences Po, spécialiste des questions européennes, auteur notamment de « L'Atlantisme est-il mort, vive l'Europe », coédité par les éditions de l'Aube et la Fondation Jean Jaurès, ainsi que d'un nouvel ouvrage à paraître au CNRS Éditions en janvier prochain, « L'Europe, un État qui s'ignore ». Et bonjour Sylvie Kaufmann.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, spécialiste des questions internationales au journal Le Monde et auteur notamment du livre « Les aveuglés », à retrouver au format poche aux éditions Folio Essai. Nous parlions de Donald Trump. Le 9 décembre dernier, il a accordé une interview supplémentaire, typiquement trumpienne, où il a eu, entre autres choses, l'occasion de dire tout le bien qu'il pense de notre continent.
Ils ne font pas du bon travail. L'Europe ne fait pas du bon travail à bien des égards. Ils parlent trop et ils ne produisent rien. Nous parlons de l'Ukraine, ils parlent, mais ils ne produisent rien. Et la guerre continue encore et encore. Je veux dire, ça fait maintenant presque 4 ans qu'elle dure, bien avant mon arrivée ici. Ce n'est pas ma guerre, c'est la guerre de Joe Biden. Et si elle continue comme ça, l'Europe ne sera plus, à mon avis, un continent viable pour bon nombre de ces pays. Leur politique d'immigration est un désastre. Ce qu'ils font en matière d'immigration est un désastre.
Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et des arguments de Donald Trump, Sylvie Kaufmann, est-ce que des mots comme ça, des noms d'oiseaux de cette sorte, marquent une sorte de cassure irréversible entre les États-Unis et l'Europe ?
Ces mots, on les entend depuis que Trump est revenu. Il était moins virulent dans son premier mandat. Il n'était pas spécialement amical, mais il était moins virulent. Il est en revanche très très offensif depuis janvier, depuis son discours d'investiture même en fait. Est-ce que c'est irréversible ? Je ne crois pas. Mais on est dans une tendance longue, ça c'est certain. Rien n'est irréversible. Il faut faire en sorte que cela ne le soit pas.
Est-ce qu'à tout le moins, Florian Louis, on doit se dire que la notion d'amitié politique entre les États-Unis et l'Europe n'est plus une notion pertinente ?
Ça dépend vraiment de quel point de vue on se place, parce qu'en écoutant les mots que j'écoutais là, finalement, ça me rappelait aussi les mots de l'entourage de George Bush Jr. Lors de l'intervention en Irak, qui dénigrait la vieille Europe, qui ne voulait pas aller combattre la France, l'Allemagne et aussi la Russie à l'époque, qui était cette fois-ci alignée sur cette question-là. Donc c'est tout ça pour dire que c'est pas la première brouille transatlantique. Et d'ailleurs, il y a aussi un parallèle à faire, c'est qu'à l'époque, justement, on opposait une Europe à une autre. La vieille Europe à la nouvelle Europe, celle qui allait en Irak avec les États-Unis. Et aujourd'hui, à côté de ce qu'on a entendu, où effectivement, il dénigre l'Europe en général. On sait aussi qu'il soutient certains États européens, certains partis européens. Donc, on est aussi dans une forme de continuité, certes dans un style trumpien, c'est-à-dire vraiment sans aucune retenue et sans aucun ménagement, mais dans une continuité d'une forme d'ingérence et de division de l'Europe en essayant de s'appuyer sur certaines de ses composantes contre d'autres.
Sylvain Kahn, vous partagez ce constat que ces propos de Trump s'inscrivent plus dans une continuité que dans une rupture dans l'histoire entre les États-Unis et l'Europe ?
Bah, disons que je partage les éléments du constat, mais je les interprète plutôt comme une rupture que comme une continuité. Parce que si effectivement le cas de figure qui vient d'être rappelé de la brouille avec George Bush Jr. sur la guerre de l'Irak, c'est un très très bon exemple, je suis tout à fait d'accord avec Florian Louis, mais précisément, là il y avait l'idée qu'il y avait une divergence en termes de politique étrangère, mais pas une divergence, on va dire, sur les valeurs, sur l'idéologie, sur le libéralisme, pour aller très vite. Tandis que là, aujourd'hui, en fait, il y a une rupture, on pourrait presque dire politique, c'est-à-dire que le mouvement MAGA, qui est au pouvoir, dit très clairement aux Européens, nous, on veut soutenir, on veut que tous les équivalents du MAGA en Europe gagnent. C'est-à-dire, ils disent très clairement, quand Orban est au pouvoir, ça veut dire que les Européens ont fait un bon choix. Et quand le Rassemblement national n'arrive pas au pouvoir, ça veut dire qu'en fait, la France est gouvernée par un gouvernement, je cite, minoritaire, instable et qui bride la démocratie. Et il me semble que là, on est vraiment sur une ingérence avec un gouvernement américain qui cherche à dicter à la population européenne quel est le bon choix et quel est le mauvais choix. Et ça, c'est quelque chose, me semble-t-il, qui est complètement inédit depuis 1945.
Alors, il y a l'interview de Donald Trump, et il y a aussi un autre document qui a été publié le 5 décembre dernier par la Maison-Blanche, qui développe plus en longueur les éléments de cette offensive ou de cette critique très virulente contre l'Europe et l'Union européenne. Il s'agit du document de la Maison-Blanche qui définit la ligne politique, la stratégie de sécurité américaine des États-Unis. Trois pages sont consacrées à l'Europe, dans lesquelles la Maison-Blanche signale qu'elle entend mettre l'Amérique d'abord sur tous les plans de sa politique actuelle et future, que les pays européens peuvent devenir dans un avenir proche composés de peuples, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, majoritairement non-européens, que l'Union européenne est composée de pays qui sape la liberté politique et la souveraineté, les politiques migratoires transforment son continent et créent des tensions, bref, qu'il y a un échec total de l'Union européenne qui conduirait, dans un avenir proche, à son effacement civilisationnel. Sylvie Kaufmann, comment faire la part des choses dans ce texte-là entre ce qui relève, je dirais, d'attaques stratégiques qui doivent se comprendre avec des logiques économiques, sécuritaires, et ce qui relève presque d'une forme d'idéologie, voire de philosophie politique.
C'est une bonne question parce que ce document donc s'appelle la stratégie de sécurité nationale. Et c'est un document qui est produit par chaque administration américaine depuis la fin des années 1980, je crois. Et si on regarde le premier document de ce type qui avait été formulé par l'administration Trump 1 pendant le premier mandat en 2017, c'était beaucoup plus classique. C'était, on parlait encore vis-à-vis de l'Europe, on parlait encore des valeurs communes et elles étaient énoncées, la démocratie, l'état de droit, les libertés individuelles, etc. Là, on n'est plus du tout là-dedans. Donc, dans ce sens-là, on va vraiment droit au but. Cette stratégie, ce document-là, aujourd'hui, elle mérite d'être claire sur l'objectif de l'administration Trump. Et sur le volet sécuritaire, il est beaucoup moins précis. C'est-à-dire, c'est vrai, sur le côté stratégique et défense, il est vague. Alors, certains diront même que tout ça est très loufoque. C'est une rédaction qui n'est pas tellement habituelle dans le style y compris dans la substance aussi. Mais bon, c'est l'administration Trump. Mais donc, je pense que sur le volet défense, il faut attendre des documents complémentaires. Il y a par exemple un document qui s'appelle le Defense Posture Review, qui est formulé par le Pentagone et qui doit intervenir normalement en janvier, enfin qui aurait déjà dû être publié, mais qu'on attend maintenant, je crois, pour janvier à Washington. Et là, qui va être beaucoup plus précis, théoriquement, dans ce que sera dans l'évolution du dispositif militaire américain à l'étranger. Donc, par exemple, pour les Européens, on en saura davantage sur est-ce que les États-Unis maintiennent leurs troupes, le niveau de leurs troupes actuelles en Europe. Probablement, ils vont le réduire un peu. Est-ce qu'ils vont le réduire massivement ou pas ? Enfin, voilà. Donc ça n'est pas dans ce document-là. En revanche, Il y a aussi d'autres documents qu'on vient de publier, qui viennent du Congrès, qui sont plus précis aussi sur les fonds que le Congrès doit autoriser pour la défense américaine à l'étranger. Hein, donc, tout ça est un ensemble qui permet de relativiser un petit peu sur le plan de la défense et de la sécurité, cette stratégie de sécurité. En revanche, sur le plan idéologique, je trouve que c'est là que c'est le plus intéressant. D'une part, parce que, pas seulement sur l'Europe, mais aussi sur cette priorité qui est formulée de l'hémisphère occidental, c'est-à-dire c'est ça le précaré des États-Unis. Il y a cette fameuse doctrine Monroe avec un corollaire Trump maintenant. Enfin bon, et sur l'Europe, ce document aussi, il faut le noter parce que ça concerne l'Europe. Ce document évite de mentionner de qualifier la Chine et la Russie comme adversaires ou comme hostiles ou comme voilà. Sur la Chine, c'est fondamentalement mercantile, une vision mercantile. Sur la Russie, on parle de retrouver une stabilité stratégique, mais la Russie n'est pas considérée comme un adversaire. Et sur l'Europe, c'est vraiment, comme vous l'avez dit, c'est une offensive idéologique. Nous ne quittons pas, nous les États-Unis ne quittons pas l'Europe, nous ne l'abandonnons pas, mais il faut qu'elle s'aligne sur nous idéologiquement. Et elle est en train de sombrer dans le déclin et dans ce que vous avez mentionné, d'être dénaturée par la migration de masse, le politiquement correct, etc. Et donc, le salut de l'Europe et l'intérêt des États-Unis, ce sont que l'Europe s'aligne idéologiquement sur ce que fait l'administration Trump aux États-Unis.
Sylvain Kahn, on parlait tout à l'heure, j'évoquais votre livre « L'Atlantisme est mort, vive l'Europe ». Est-ce que ce document sonne le glas du concept d'atlantisme et qui marque en gros une sorte de repli américain et de fin de volonté de domination en Europe, ou est-ce qu'il faut le lire à l'inverse comme une tentative d'ingérence politique ?
Je crois qu'il faut effectivement le lire comme une tentative d'ingérence politique. Ce qui est effectivement très intéressant avec ce document, c'est que, comme le disait Sylvie Kaufmann à l'instant, c'est un document officiel. Donc c'est vraiment, on pourrait dire, la pièce de doctrine du gouvernement Trump s'agissant de sa vision du monde et de la place des États-Unis dans le monde. Et ce document reprend finalement, mais encore une fois, de manière officielle et dans un style qui se veut quand même administratif ou diplomatique, quand bien même c'est le style MAGA, Make America Great Again, reprend un certain nombre de discours qui ont été faits, comme vous le disiez dans votre introduction, dès le mois de janvier, dès la prise de fonction, soit par Trump lui-même, soit par son vice-président J.D. Vance, soit par son ministre des Affaires étrangères Marco Rubio, soit par son ministre de la Défense Pete Hegseth. Et en plus, on s'en souvient, on a un certain nombre, j'imagine, à s'en souvenir, à un moment donné, il avait fuité une conversation qu'ils avaient ensemble sur WhatsApp au moment de déclencher des frappes contre les Houthis, si je me souviens bien. Et là, on s'était rendu compte que dans la manière qu'ils avaient de converser entre eux de façon privée et familière, ils faisaient part au mois de mars de leur détestation de l'Europe. Ils le disaient comme ça. Je déteste l'Europe, je hais l'Europe, etc. Donc là, c'est la même chose qui est dit, mais d'une manière officielle et qui est donc finalement le nouveau dogme ou la nouvelle doctrine. Donc effectivement, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'inédit. C'est-à-dire qu'encore une fois, qu'il y ait eu dans l'histoire des 80 dernières années des divergences, parfois des rivalités entre l'Europe et les États-Unis, bien entendu, mais c'était toujours dans un contexte où les États-Unis soutenaient la construction européenne, quand bien même parfois, sous Nixon, ils espéraient pouvoir la contrôler un peu plus que, par exemple, sous Carter. Mais il y avait également l'idée qu'on était d'accord sur les objectifs et d'accord sur la philosophie, on va dire, politique de la vie en société. Tandis que là, c'est effectivement une manière de dire que la manière dont vivent les Européens ne plaît pas du tout à ce gouvernement américain, et que, par conséquent, le gouvernement américain se donne, entre autres missions, parce que, comme vous le disiez, il se donne énormément de missions partout dans le monde, dans ce document, il se donne, entre autres missions, de réformer, de corriger, hein, c'est écrit comme ça, la manière dont vivent les Européens. Donc c'est effectivement, je crois, une divergence très, très, très grande et inédite depuis 1945.
Alors, il y a un aspect de ce document dont vous avez parlé, Sylvie Kaufmann, c'est le silence sur la dimension de menace venant de la Russie. Voyons ce qu'en disent les Russes au sujet de l'Europe.
France Culture, sans préjugés. Nathan Devers.
Alors, hasard du calendrier, le 5 décembre dernier, soit le jour de la publication de ce document par la Maison-Blanche dont nous avons parlé, l'Europe était attaquée depuis un tout autre côté, à savoir depuis la Russie. Puisque ce jour-là, Sergueï Karaganov, qui est un des grands idéologues, intellectuels idéologues, entre guillemets, qui entoure le pouvoir du Kremlin, accordait une interview sur la principale chaîne de télévision russe, Pervy Canal, interview qui a été traduite en longueur par la revue Le Grand Continent. Et dans cette interview, il dit que la guerre entre la Russie et l'Europe a déjà commencé, même si elle n'est pas appelée encore ainsi, que le véritable adversaire de la Russie, je cite, est bien l'Europe et non la malheureuse Ukraine, misérable et manipulée. Et il dit, n'étant pas président, je peux dire que cette guerre ne prendra fin que lorsque nous aurons infligé à l'Europe une défaite morale et politique. Vous me voyez venir, Florian Louis, est-ce qu'on peut mettre sur le même plan, est-ce qu'on peut estimer qu'il y a même une forme d'équivalence idéologique dans les attaques dont nous avons parlé venant de Washington et celles venant de Moscou d'un point de vue idéologique, j'entends.
Alors, je ne les mettrai pas sur le même plan. Par contre, il est important de les envisager concomitamment, puisqu'elles sont concomitantes et que nous, Européens, sommes pris dans cette tenaille, dans cet étau de menaces de nature différente venant à la fois de l'ouest des États-Unis et de l'est de la Russie. Et c'est pourquoi, vous l'avez dit, au Grand Continent, on a traduit et commenté ce texte de Karaganov et qu'on en traduit d'autres de ce qui se dit en Russie, parce qu'il est important aussi d'écouter ce qui se dit, ce qui se dit de nous, et pas seulement dans les textes produits par la Maison-Blanche, mais aussi, notamment, ce qui se dit du côté des couloirs du Kremlin. Alors, la grande différence quand même entre ces deux menaces, c'est que la Russie ne représente pas la même puissance et donc la même capacité de nuisance pour nous, Européens, que les Américains. Pour le dire plus clairement, les Russes sont dans une forme de surenchère pour essayer de jouer sur nos peurs et nos paniques pour diviser, affaiblir nos sociétés, nos capacités de résistance. Là où, du côté de la mouvance MAGA, je vois plus effectivement un mépris, un dédain. Alors certes, là aussi, avec la volonté de s'appuyer sur certaines factions au sein des sociétés européennes. Mais voilà, les Russes peuvent dire les choses que vous venez de dire. Il n'empêche que, pour l'instant, sur le terrain, en Ukraine, ils n'arrivent pas à avancer aussi vite, évidemment, qu'ils l'auraient espéré. Et donc, ils ne représentent pas une menace aussi directe qu'ils le prétendent. Et donc, on est là plus dans une stratégie d'intimidation visant à saper le moral et à affaiblir le soutien à l'Ukraine, qui reste l'objectif principal, qui est déjà trop gros, si j'ose dire, cette hausse-là, l'os ukrainien pour l'ogre russe, plus, je pense, que la capacité réelle d'aller au-delà de ces mots. Mais cependant, ça ne veut pas dire qu'il faut dire ce n'est pas grave et ne pas en tenir compte. Ça veut dire qu'il faut aussi réagir de manière posée et intéressée. Et pour revenir sur le lien entre ces deux menaces, en revanche, là où il y a un lien, peut-être même idéologique, c'est que, de fait, on voit s'imposer, et c'est très nouveau dans le discours trumpien, enfin américain, via Trump, ça l'est moins dans le discours russe, une vision du monde que j'ai envie d'appeler pluriverselle, c'est-à-dire qu'on voit les États-Unis qui abandonnent une forme d'universalisme qui était le leur. Et pour le dire un peu plus clairement dans cette évolution, parce que là encore, c'est pas tout à fait nouveau, mais quand même. En fait, pour le dire vite, depuis Obama, les États-Unis avaient de plus en plus renoncé à être le gendarme du monde, c'est-à-dire à utiliser leurs forces pour faire la police partout et faire appliquer partout leur vision du monde. Trump s'inscrit dans cette continuité, mais va beaucoup plus loin, parce qu'on a l'impression que non seulement il ne veut plus que les États-Unis soient le gendarme du monde, mais qu'il ne veut même plus que les États-Unis soient le phare du monde, que les États-Unis soient porteurs d'un modèle vers lequel l'ensemble de l'humanité serait appelé à converger par sa seule séduction. Et au contraire, on voit bien dans cette doctrine de sécurité nationale dont on parlait, comment ce qu'il propose, c'est un partage du monde en grandes zones d'influence, et ça évidemment, c'est là qu'il y a convergence avec les Russes, qui sont très contents de voir que les États-Unis, finalement, disent entre les lignes, on vous laisse faire ce que vous voulez chez vous. Alors, en étant un peu flou sur justement où s'arrête le chez vous à l'ouest, à l'est de la Russie, mais évidemment, comme l'Europe, elle, est la seule région du monde quasiment qui ne se voit pas accorder, finalement, cette zone d'influence, ça peut alimenter l'appétit des Russes. Mais c'est là, effectivement, qu'il y a une convergence, ou plus précisément, une opportunité qui s'offre à la Russie, c'est que pour la première fois, les États-Unis semblent accepter l'idée, non seulement de ne pas faire la police partout, mais de ne pas être le modèle qui prévaudrait, qui diffuserait, qui rayonnerait partout dans le monde.
Alors, sous la plume de ce Sergueï Karaganov, qui a écrit d'autres pièces de doctrine traduites aussi par Le Grand Continent, il reproche à l'Europe ses valeurs universelle qui inspire son modèle politique. Je cite un autre texte de lui, hein, où il dit que l'Europe incarne la négation de l'histoire, de la patrie, du genre, de la foi, l'idéologie LGBT agressive, l'ultra-féminisme, la démocratie corrompue des élites occidentales, etc. etc. Dans Les Aveuglés, Sylvie Kaufmann, vous racontez l'évolution du discours de Poutine, en citant notamment son fameux discours au Parlement allemand en 2001, et en notant que ce discours était un hommage aux valeurs communes, entre guillemets, universelles. Comment il y a eu cette évolution idéologique en l'espace de 24 ans dans le discours de Vladimir Poutine ?
Oui, alors, est-ce que ce discours de 2001 de Poutine devant le Bundestag était-il sincère ? Ça, c'est toute la question, je ne le sais pas, puisque je ne suis pas dans la tête de Vladimir Poutine, mais je pense qu'on peut voir rétrospectivement la part de calcul dans ce discours qui était... Poutine était alors, donc 2001, c'était même en septembre 2001, donc c'était 15 jours après le 11 septembre, après les attaques du 11 septembre. Et donc Poutine était vraiment dans une phase de séduction vis-à-vis de l'Europe, de l'Ouest, enfin de l'Occident, je dirais, et de l'Europe et encore plus de l'Allemagne. C'était l'Allemagne vraiment sa cible par laquelle il pensait pouvoir pénétrer l'Europe. Et donc après, vous l'avez mentionné, Florian Louis l'a mentionné tout à l'heure, après il y a eu la guerre d'Irak où la Russie était du côté de l'Allemagne et de la France contre l'invasion américaine de l'Irak, qui avait fracturé l'Europe. Bon. Mais quelques années plus tard, en 2007, Poutine l'a fait un autre discours célèbre à la conférence de Munich, où là, c'est vraiment une offensive géopolitique contre l'Occident, où il accuse les États-Unis de monopoliser le pouvoir. Il parle de toute la question de l'élargissement de l'OTAN, qu'il considère comme hostile, comme une manifestation d'hostilité vis-à-vis de la Russie. Donc là, on est très ouvertement dans la phase d'affrontement avec l'Occident. Voilà. Et sur la question des valeurs, parce que c'est ce qui rapproche finalement. Alors c'est amusant parce que Karaganov, il est quand même le plus strident de tous, je dois dire, de tous ces idéologues, enfin de tous ceux qui s'expriment aujourd'hui à Moscou. Il va quand même très très loin dans la critique, mais c'est vrai que Poutine, et c'est ce qui le rapproche d'une certaine manière des magas, c'est qu'il met en exergue toujours ses valeurs chrétiennes, le conservatisme, la force et tout ça. Pour la critique de l'Europe, évidemment, elle converge de Moscou et de Washington sur ce plan-là, puisqu'on est, il y a ce point commun de la critique de notre société qui est trop permissive, le multiculturalisme, la migration et tout ça, mais je pense que l'objectif est différent, c'est-à-dire que la Russie cherche à déstabiliser l'Europe. Les deux sont hostiles, ça c'est clair, comme disait Florian, on est pris en tenaille entre les deux. Mais la Russie cherche à déstabiliser l'Europe, y compris par toute cette guerre, cette guerre hybride à laquelle tous ces épisodes de guerre hybride auxquels on assiste actuellement et qui ont tendance à s'intensifier, les cyberattaques, les sabotages, les ballons, les drones, la désinformation, des campagnes de désinformation importantes. Mais je pense que l'objectif, c'est vraiment semer la confusion, déstabiliser, affaiblir l'Europe. Du côté de Washington, je crois que l'objectif est plutôt de convertir l'Europe. Et alors, on a beaucoup parlé à Washington ces derniers jours, depuis la publication de cette stratégie, d'un document non officiel, soi-disant classifié. Alors, je ne sais pas s'il existe vraiment ou pas, je ne l'ai pas vu, mais les médias s'en sont beaucoup fait l'écho, où là, il était question de s'appuyer, pour l'administration Trump, de s'appuyer sur 4 pays européens, considérés comme alliés, l'Autriche, la Hongrie, la Pologne et l'Italie, s'appuyer sur ces 4 pays pour les encourager à quitter l'Union européenne. Alors vraiment, je pense qu'il faut mal connaître les Polonais pour estimer qu'ils vont vouloir quitter l'Union européenne. Mais voilà, et le fait que ça ne fasse pas partie finalement du document final est finalement plutôt rassurant, puisque ça veut dire qu'il y a peut-être des gens qui ont une petite dose de réalisme à Washington. Mais voilà, on voit que là, il y a quand même une stratégie tout à fait agressive vis-à-vis de l'Europe.
Alors dans cette comparaison entre les deux offensives idéologiques menées à Washington et à Moscou contre l'Europe. Sylvain Kahn, moi, il y a un aspect, je me suis demandé si on ne pouvait pas faire un point commun, ou peut-être que je me trompe, c'est que l'une et l'autre, enfin aussi bien la Russie que les États-Unis de Donald Trump, critiquent l'Union européenne sur la base d'un même argument qui serait d'avoir trahi le projet fondateur supposé de l'Europe. Et aussi bien la Russie de Vladimir Poutine que les États-Unis de Trump et de Vance prétendent être la vraie Europe. Quand on lit un autre idéologue qui entoure Poutine, qui est Alexandre Douguine, il théorise le fait que l'Europe aurait été initialement un projet helléno-chrétien qui aurait été complètement trahi et corrompu par la démocratie libérale, et que donc le vrai héritier de l'Europe se situe à Moscou plutôt qu'à Berlin ou Paris. Et quand on écoute le discours de J.D. Vance à Munich récemment, il dit un peu en substance la même chose avec la liberté. L'Europe aurait inventé la liberté, l'aurait trahi avec toutes les régulations, etc., et la vraie Europe se retrouverait à Washington. Est-ce qu'il y a ce rapport aussi presque de désir mimétique, de volonté de non seulement de nous attaquer, mais de nous remplacer notre modèle,
de nous corriger, comme on parle d'une maison de correction, quoi. C'est-à-dire, comme vous le dites, les Européens d'aujourd'hui seraient un peu comme des enfants qui auraient mal tourné, et que notamment parce qu'ils ont une éducation beaucoup trop laxiste ou permissive, hein, et par conséquent il faut les remettre dans le droit chemin. Pour leur propre bien, ils ne s'en rendent pas compte, mais par la contrainte. Hein, c'est effectivement ça qu'il y a en commun dans cette ruse classique consistant à dire nous savons mieux que vous ce que vous êtes en réalité, et donc nous allons vous aider à devenir ce que vous devez être. Voilà. Sur le plan matériel et concret, disons, moi, il me semble que là où il y a un rapprochement, une convergence entre la politique européenne du gouvernement Trump et la politique européenne de l'administration Poutine, c'est d'abord dans le fait que le monde entier est considéré comme un gisement de ressources. Hein. Et ça, c'est d'ailleurs rappelé à plusieurs reprises dans le document dont nous parlions tout à l'heure, hein, à savoir que le monde est considéré, il n'y a pas des alliés ou des partenaires ou des ennemis, hein, mais il y a un peu partout des ressources qui peuvent être humaines, économiques, minérales, agricoles, dont on peut avoir besoin pour nourrir ce qui est l'objectif numéro un de la politique américaine aujourd'hui, à savoir restaurer la grandeur de l'Amérique. Hein, bon. Je crois que la deuxième convergence, et là je cite la traduction française par le Grand Continent du document sur la sécurité, la stratégie de sécurité nationale de Trump, c'est la croyance dans, citation, l'influence démesurée des nations plus grandes, plus riches et plus fortes, qui est une vérité intemporelle des relations internationales. Donc là, en gros, Trump regarde autour de lui, il dit, ben voilà, il y a des pays de la même taille et de la même puissance que les États-Unis, il y a la Russie, il y a la Chine. En tout cas, il n'y a pas de pays européen et il n'y a pas l'Europe en tant que telle. Donc ça leur fait un deuxième point commun. Et donc à partir de là, je crois qu'on peut dire que la grosse différence avec la guerre froide, c'est que la guerre froide, il y avait un affrontement de modèles entre un modèle que prétendait incarner les États-Unis à la tête d'un camp, on va dire, et puis un modèle que prétendait incarner l'Union soviétique à la tête d'un autre camp, à telle enseigne que certains ont dit, bah, nous, on se dégage de ça, on est des non-alignés, on fait partie du tiers-monde, et on veut appartenir à aucun des deux camps. Aujourd'hui, on a quelque chose qui ressemble à un axe Trump-Poutine, où, en fait, ils sont d'accord pour dire, il y a un monde de mâles dominants, dont nous sommes les incarnations, on va dire, physiques et personnifiées, et il faut que tout le monde comprenne que, en choisissant chacun son mâle dominant et en s'y soumettant, ça marchera beaucoup mieux, et c'est même comme ça que tous les intérêts nationaux seront mieux pris en compte et se développeront mieux, puisque, disent-ils, c'est sa deuxième loi géopolitique, je cite encore, « l'unité politique fondamentale du monde est et restera l'État-nation ». Et c'est pour ça qu'ils détestent l'Union européenne, et c'est pour ça aussi qu'il y a convergence avec la Russie, parce que la Russie, comme nous le savons, ne considère pas, enfin, quand je dis la Russie, le gouvernement russe, les élites russes, ne considèrent pas que l'Ukraine est une nation et qu'elle n'a même pas le droit d'être une nation. Et là-dessus, donc, ils se rejoignent les uns et les autres pour dire, nous, on sait mieux que tout le monde qui peut être une nation et qui ne peut pas prétendre, disons, à cette réalité à la fois culturelle, politique et géopolitique.
La question qui est en suspens, c'est bien sûr celle de savoir comment l'Europe peut, doit répondre à cet axe des mâles dominants que vous venez d'évoquer.
France Culture, sans préjugés, Nathan Devers.
Il y a toutes les raisons d'être optimiste. Quand on voit la Pologne, qui il y a encore quelques mois, alors que d'aucuns nous disaient que tout était joué, a non seulement connu la plus grande participation de son histoire à un vote démocratique, mais a rechoisi un parti tout à la fois patriote et défendant la démocratie libérale. Et donc il nous faut porter ce combat de la démocratie libérale, de l'ouverture politique, partout sur le sol européen, et essayer au maximum de l'européaniser.
Ce combat de la démocratie libérale évoqué par Emmanuel Macron, que nous venons d'entendre dans son discours sur l'Europe du 25 avril 2024 à la Sorbonne, comment peut-il être mené quand l'Europe est aussi attaquée, et je crois que nous n'avons cessé d'en parler en filigrane depuis tout à l'heure, sur un autre plan qui est le mot de civilisation. Donald Trump parlant d'effacement civilisationnel, les idéologues poutiniens parlant d'état-civilisation s'en prennent aussi à l'idée selon laquelle la démocratie libérale empêche les peuples d'affirmer leur identité, et en l'occurrence une conception extrêmement fermée, extrêmement xénophobe, extrêmement exclusive de cette identité. Florian Louis, comment se réapproprier en un sens le mot de patriotisme, peut-être de patriotisme constitutionnel pour reprendre le concept de Jürgen Habermas, face à ces attaques-là?
Bon, alors d'abord, il faut bien sûr voir qu'est-ce que c'est que cette attaque sur la question de la civilisation, parce qu'effectivement, ça renvoie un peu à ce que je disais tout à l'heure sur cette conception pluriverselle du monde, c'est-à-dire que pour Trump, non seulement le monde doit, devrait, voire est déjà divisé autour de quelques grandes puissances, et d'ailleurs dans le document classifié, la version longue dont parlait Sylvie Kaufmann, il est aussi question de remplacer le G7 qui réunit donc 7 pays non seulement riches mais démocratiques par un C5 qui réunirait des pays uniquement sur un critère démographique, c'est-à-dire les 5 pays ayant plus de 100 millions d'habitants, donc le Japon, la Chine, les États-Unis, la Russie et l'Inde, ce qui exclut donc évidemment l'Europe qui pourrait pourtant être représentée en tant qu'Union européenne avec 450 millions d'habitants, donc ça en dit long sur la vision de la chose. Mais pourquoi je parle de ça? Parce que dans tous les cas, vous voyez qu'on parle en termes politiques ou en termes civilisationnels, on est quand même toujours dans cette idée assez nouvelle. C'est-à-dire que quand je parlais tout à l'heure des États-Unis comme un phare de l'humanité qui se prétendait comme tel, c'était l'idée qu'il n'y avait finalement qu'une civilisation, qu'un modèle civilisationnel qu'il fallait diffuser. Il fallait civiliser le monde, c'est-à-dire en fait l'américaniser. Bon. Et aujourd'hui, on voit un discours très différent qui est plutôt, il y a des civilisations et chacun chez soi, d'où cette obsession de la lutte contre l'immigration. Et on est toujours donc dans cette idée très nouvelle aux États-Unis, qui ne serait plus d'aller vers un univers dominé par les États-Unis, mais vers un plurivers dans lequel les États-Unis se replieraient sur leur hémisphère occidental, comme ils disent, c'est-à-dire uniquement sur le continent américain. Et soit dit en passant, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose, peut-être pour les Européens, parce que ça arrive à un moment très difficile, finalement. On revient aussi à la question d'avant. Si les États-Unis nous disaient simplement « au revoir, vous ne nous intéressez plus » et que ça ne se passait pas au moment où les Russes nous attaquaient sur le flanc Est, peut-être que ce serait pas si mal que ça pour nous, Européens. Ça nous laisserait le temps, si j'ose dire, de nous retourner. Mais c'est très inquiétant aussi pour les États-Unis, parce que ce que semble oublier Donald Trump, c'est que si un certain nombre de ses prédécesseurs ont pris des décisions et des actes concrets pour étendre l'influence, la présence des États-Unis, notamment en Europe, c'était pas par pur altruisme et c'était pas pour le plaisir de le faire. C'était parce qu'ils avaient calculé que c'était dans l'intérêt des États-Unis, parce que, et c'est là où c'est d'ailleurs un peu étrange cette logique trumpienne, parce que c'est aussi sa logique, il y avait l'idée que l'équilibre des puissances, le monde, la politique internationale, c'est un jeu à somme nulle, et qu'en gros, ce qui n'est pas à moi est à toi. Et donc, tout ce qui ne me renforce pas m'affaiblit. Or là, on a un président Trump qui pourtant est quand même assez dans cette logique, notamment sur le plan économique, une logique d'accaparement, de vouloir exploiter la moindre richesse partout dans le monde, qui d'un autre côté brade des atouts que les États-Unis ont construits pendant des décennies, voire des siècles, en l'occurrence, leur influence en Europe. Et ça, c'est assez étonnant, assez difficile à comprendre, parce que je pense que si moi j'étais un stratège américain, une fois de plus, d'un point de vue européen, je dirais pas forcément la même chose, mais si je me mets dans la tête d'un stratège américain, je vois pas vraiment ce qui a gagné pour les États-Unis à saborder à ce point leur alliance avec les Européens, parce que ça peut quand même leur être utile, et ça leur a été par le passé, sinon d'ailleurs, ils ne l'auraient pas fait.
Et alors il y a la question des intérêts. Il y a la question des soubassements idéologiques de ces attaques. Nous parlions tout à l'heure dans le document de Donald Trump, enfin de la Maison Blanche de 33 pages, de toutes les phrases sur l'immigration. Dans ce document-là et dans ces citations que j'ai lues, la Maison Blanche, l'administration Trump, épouse clairement ce qui, en France et en Europe, correspond à la théorie raciste, complotiste du grand remplacement, à savoir l'idée que le peuple européen va disparaître au cours des prochaines décennies sous l'effet d'une immigration massive. Quand les Russes, enfin les Poutiniens parlent des droits accordés aux minorités, il y a cette même idée latente d'une majorité qui va disparaître parce qu'elle va être prise en otage par des minorités. Sylvie Kaufmann, cette sorte d'instrumentalisation idéologiques, de théories qui viennent souvent de l'extrême droite en France, en Europe, ou en tout cas qui sont défendues par elle, comment l'analyser, comment la combattre à l'échelle européenne?
Alors, il y a une tonalité raciale, raciste, évidemment, à tout ça, puisque quand on dit l'Europe n'aura plus une majorité de population européenne, ça veut dire blanche. Hein, mm-hmm. et ça vient aussi de cette... de cette évolution. Alors, c'est assez extraordinaire parce que, enfin, paradoxal, si on veut, les États-Unis sont, par essence, un pays d'immigration. Et ça a été, jusqu'à très récemment, considéré comme une force, cette immigration. C'est la richesse des États-Unis, c'est cette régénération permanente de gens qui sont attirés par la fameuse cité scintillante sur la colline qui attirait les pèlerins, enfin voilà, au moment de la création des États-Unis. Bon, donc, c'est en réalité, ce qui s'est passé, c'est que, par exemple, quand vous prenez un État comme la Californie, aujourd'hui, la population blanche, puisque aux États-Unis, on admet les qualifications, les catégorisations ethniques, donc dans le recensement, on doit se définir comme tel. Donc la population blanche non hispanique, aujourd'hui en Californie, c'est 34% de la population. Et les latinos sont 40% de la population de Californie. 16% sont d'origine, sont des Américains asiatiques. Donc ça, c'est aussi ce que combat Trump quand il procède à ses déportations, à ses expulsions massives, à ses arrestations. Enfin, ce qui se passe aux États-Unis en ce moment est quand même assez terrible sur le plan des droits de l'homme. Je pense que ça restera comme un traumatisme historique, à mon avis, pour les Américains, de ces gens qui sont arrêtés en pleine rue, qui sont expulsés, qui sont... Enfin bon. Donc, en vouloir appliquer ce schéma à l'Europe, c'est vraiment une offensive tout à fait idéologique. Donc que peut faire l'Europe pour répondre à cette offensive culturelle, idéologique, intellectuelle, politique des États-Unis? Je pense que d'abord il y a la question de... On parle de civilisation occidentale. Qu'est-ce que c'est que la civilisation occidentale? Qu'est-ce que c'est que l'Ouest? Qui est l'Ouest? Pourquoi est-ce que les États-Unis... Pourquoi est-ce que l'administration Trump peut décider au nom de quoi que ce sont les États-Unis qui sont les gardiens de la civilisation occidentale? Moi, ma connaissance, les Lumières, c'est européen. Voilà, donc il y a tout ce débat qu'on peut avoir, mais je pense qu'on peut se réapproprier en tant qu'Européen ces valeurs qui sont combattus par l'administration américaine aujourd'hui. Et puis, il y a ce combat à mener chez nous, c'est évident. Comment améliorer le fonctionnement de l'Europe? Je crois que tout le monde est d'accord que l'Union européenne ne fonctionne pas de manière tout à fait idéale et qu'il y a des tas de réformes à apporter. La manière dont on essaye de s'insérer dans les tentatives de règlement du conflit en Ukraine montre aussi que notre format européen n'est pas le bon, enfin, ou n'est pas adapté à certaines situations. Voyons ce format E3 France, Grande-Bretagne, Allemagne, le format E3+, le format coalition des volontaires, enfin, tout ça. Il y a plein de choses à inventer et à améliorer sur le terrain européen. Et puis, il y a bien entendu améliorer notre défense, prendre en charge notre défense, qu'on aurait dû faire depuis longtemps et qu'on commence seulement à faire un petit peu. Et puis, il y a des choses... Par exemple, il y a une nouvelle, et je terminerai là-dessus, une nouvelle que je trouve assez intéressante ces derniers temps, c'est par exemple Yann LeCun, ex-directeur scientifique de Meta, qui est donc le grand spécialiste de l'intelligence artificielle, qui quitte Meta et qui décide de créer une start-up sur la nouvelle génération de l'intelligence artificielle à Paris. Et un autre Européen quitte Meta, c'est Nick Clegg, le Britannique, qui lui va se lancer dans le capital risque et il a l'intention de travailler avec Yann LeCun. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais si vous voulez, ce sont des initiatives qui sont de nature à renforcer l'Europe, parce que l'Europe n'a pas de grands champions numériques ni de l'intelligence artificielle. Or, c'est là-dessus que se déroule aussi le combat mondial aujourd'hui. Donc voilà, je crois que là, ce sont quelques pistes qui peuvent nous permettre de combattre cette offensive.
En vous écoutant, Sylvie Kahn, et en radicalisant... Sylvie Kaufmann, pardonnez-moi-le, parce que je m'apprêtais à interroger Sylvain Kahn. Et en radicalisant un peu cette idée, je me demande si on ne peut pas voir ça presque comme une forme de bonne nouvelle potentielle, à savoir la fin d'une illusion atlantiste pour l'Europe et le retour à une exigence d'autonomie dans tous les domaines. Sylvain Kahn, est-ce que vous partagez ce constat ?
En tous les cas, la partie de votre constat que je partage à 100%, au sens où c'est sûr, c'est qu'il faut s'autonomiser. Les Européens ont maintenant compris que s'ils ne cherchent pas à s'autonomiser vis-à-vis des États-Unis d'Amérique, ils vont devenir dominés et ils n'auront plus leur destin en main. Donc, concrètement, parce qu'effectivement, ça, je crois qu'on a essayé tous les quatre de bien indiquer à vos auditeurs à quel point c'est un document idéologique. Mais si maintenant on essaye de voir concrètement quels sont les domaines de la lutte, sur quel terrain très concret se situe, disons, ce combat pour une autonomie vis-à-vis des États-Unis. Bon, ils sont d'ailleurs en creux dans le document lui-même. Il y a d'une part le commerce et la production industrielle. D'autre part, il y a la monnaie et la finance. Et à cet égard, on voit bien comment Trump soutient de façon assez surprenante des monnaies qui ne sont pas des monnaies d'État et des crypto-monnaies, ce qui est une manière effectivement d'affaiblir tous les États du monde. Troisièmement, le digital et l'innovation, Sylvie en parlait à l'instant. Et quatrièmement, la défense. Bon, les autres choses qui sont dans le document, comme l'immigration par exemple, jusqu'à preuve du contraire, on a très peu d'éléments qui nous permettent d'anticiper le fait que l'armée américaine viendrait empêcher les flux migratoires quand ils ont lieu d'avoir lieu. Donc, sur la défense, effectivement, les choses sont en train de bouger, mais ça se fait très lentement, pour une raison très simple, c'est les corporatismes industriels nationaux et par le fait que, jusqu'à présent, les Européens considéraient à juste titre que, grâce à l'OTAN, leur territoire était protégé par les États-Unis.
Je suis désolé, mais le temps nous coupe. Nous touchons à la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous trois pour cette conversation passionnante. Merci à Aline Biette pour la préparation de l'émission et à Souad Boukorsa qui l'a réalisé et mise en onde, émission que vous pouvez retrouver sur le site et l'application de Radio France. À très bientôt.